Des avantages numériques, livre signé par Chantal Maccabée. Comment conjuguer avec la domination masculine dans le monde du sport?
Notre invité ce matin nous propose sa biographie, Des avantages numériques. Chantal Maccabée, bonjour.
Bonjour, Paul.
C'est très intéressant parce que c'est évidemment votre vie, mais à travers les grandes décennies de sport, oui. Pour Montréal principalement, de hockey, de baseball, vous avez tout connu. Ce que je comprends, c'est que le sport, c'est une passion pour vous. Au point de départ, là.
Oui,
c'est quelque chose qui... c'est pas, vous n'êtes pas allé vers le sport parce que, je sais pas, le journalisme politique a pas marché ou... c'était vraiment, c'est quoi, c'est une passion?
C'est une passion que mes parents n'expliquaient pas parce que mon père n'aimait pas du tout les sports. Ma mère non plus, j'ai pas de frère. Je suis née dans cette période-là où, bon, quand j'ai eu 10, 11, 12 ans, c'est les années 70, c'est les Jeux olympiques de Montréal, c'est les Coupes Stanley du Canadien, c'est Mohamed Ali, c'est les Steelers de Pittsburgh, les Celtics de Boston, les Reds de Cincinnati, les Expos à la fin des années 70. Jack Nicklaus, c'est une période, à mon avis, c'est probablement la plus belle période dans le monde du sport, c'est extraordinaire. Et je suis vraiment accrochée par ça. Je veux faire ce métier-là, je veux travailler là-dedans. À la grande surprise de mes parents qui m'ont jamais découragée, mais mon père me disait, il va falloir que tu te fasses une carapace.
Mais vous étiez même prête à jouer au hockey avec des gars, le hockey féminin n'existait pas à
exact.
Cette époque-là.
Oui, exact. Et bien entendu, j'avais beaucoup, mes amis, c'était beaucoup des gars. Fait que j'arrivais de l'école, je lançais mon sac à dos, je prenais mon hockey puis j'allais jouer au parc avec les gars. Et j'aurais donc aimé ça, jouer dans une équipe, moi. J'ai joué plus tard dans une ligue féminine. J'étais une mère de famille, je jouais le samedi avant que je travaille sur les matchs canadiens. Je n'étais pas très douée, mais j'aime ça, j'adore ça. Ça
m'a jamais quitté. Je regardais les expériences quand même. Je prends un exemple, quand vous avez été embauché pour les statistiques des voisins de Laval, oui. Ça veut dire que vous avez comptabilisé les performances de Mario Lemieux.
Ouais. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je suis une grande fan. Bon, ma première idole a été Guy Lafleur, bien entendu. Ma deuxième a été Mario Lemieux. Je faisais les statistiques pour les voisins. Ce que je faisais avec le collégial 3A en même temps. Donc, je travaillais pour les deux équipes. Et je l'ai vu faire, là, des choses sur la glace absolument débile. T'sais, 282 points dans une saison, là, c'était le record de Guy Lafleur. Là, c'est le dernier match de la saison contre Longueuil. Mario a 127 buts. Ça prend un tour du chapeau pour égaler le record de Guy Lafleur qui est de 130. Et rendu en deuxième période, il l'avait battu. Il a fini la saison avec 133 buts. Fait que ce match-là, il a fait 6 buts, 5 passes, 11 points pour être sûr de battre le record de Guy. T'sais, il a fait des choses extraordinaires. J'ai été chanceuse au cours de ma carrière de côtoyer des gens comme ça. Puis Mario Lemieux qui est devenu une grande vedette et le propriétaire des Pingouins aujourd'hui.
Je regardais un peu le profil. D'abord, vous avez le même employeur depuis combien d'années? Là?
Ça va faire 29 ans.
C'est un bail?
Oui. On a toujours autant de fun. Je veux dire, on le dit souvent, puis bon, vous travaillez avec Alain Crête, on est une belle famille à RDS. On est tissé serré. Ça n'a pas toujours été facile. On a connu des hauts, des bas. Mais on a vraiment, vraiment du plaisir. Puis je me vois pas ailleurs. J'ai fait la première émission de l'histoire de RDS avec le Sport 30, le 1er septembre 89. Et malgré mes rides, malgré le fait que j'avais 24 ans, j'en ai 53, malgré tout ça, les patrons nous font confiance. Et ça, c'est très précieux. Là.
Est-ce que vous auriez aimé décrire des matchs de hockey?
Non, pas du tout.
Non.
Je l'ai déjà fait pour le hockey féminin, le championnat mondial de hockey féminin. Je suis pas bonne. C'est vraiment pas dans mon élément. Je trouve que ça va vite. Je trouve que c'est la partie du métier la plus difficile à maîtriser parce que tu dois être devant le jeu, pas derrière. Tu dois connaître tous les numéros, tout ce qui... C'est extrêmement difficile d'être descripteur, puis j'avais pas vraiment pas ce talent-là.
C'est sûr qu'en commençant la lecture de votre livre, je disais, bon, je vais avoir tous les cas où elle s'est fait faire des blagues de mauvais goût, grossier, mon oncle, du harcèlement. Oui, mais pas tant que ça non plus.
Pas beaucoup. J'ai pas voulu...
En milieu de travail, je parle.
Exact. J'ai pas voulu axer le livre là-dessus parce que c'est secondaire. Oui, j'en ai eu plusieurs, c'est évident, mais je voulais plus un regard positif sur la carrière du journalisme sportif, sur l'ouverture de RDS, rendre hommage à Jacques Demers, à mes collègues qui ont été extraordinaires, à Gilles Péloquin qui m'a donné ma toute première chance. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent voir les femmes réussir, qui veulent les aider, qui sont là pour les épauler. Moi, j'ai eu cette chance-là. J'en ai connu plusieurs qui m'ont ouvert des portes, qui ont eu confiance en moi. Et je voulais plus axer le livre là-dessus et pas trop passer de temps sur les trolls puis les pas fins là, qui peuvent envahir.
OK, mais ça, sur les médias sociaux, c'est une autre affaire. Mais en milieu de travail, bon, vous en avez entendu toutes les sortes, là, c'est sûr. Est-ce que ça vous dérangeait? Non. Passiez-vous par-dessus?
Je passais par-dessus. Je me servais souvent du sens de l'humour pour répliquer aux blagues déplacées. Puis à un moment donné, ben tu deviens one of the boys. Donc t'es tellement habitué d'entendre que toi aussi, moi aussi, là, des fois je donne pas ma place dans les blagues grivoises là, parce que c'est comme ça. Puis c'est l'esprit, là, l'esprit d'équipe. Puis on est toujours la même petite gang ensemble parce qu'on voyage ensemble, on est sur la route, on est au Centre Bell. Et j'ai aucun problème avec ça.
Et le harcèlement en milieu de travail, vous avez connu ça ou pas?
Non, j'ai été chanceuse. Il y a eu un épisode que je décris dans le livre et tout de suite, Jean Saint-Onge s'est porté à ma défense et ça, ça fait longtemps, là, c'est le début des années 80, je me suis dit, OK, il y a des gars qui vont être là pour me défendre, ça sera pas tous des mononcles comme ça et j'ai pas vécu ça, faut dire que j'ai un caractère quand même assez fort, donc je me gêne pas là pour livrer le fond de ma pensée s'il y a quelqu'un qui est déplacé. Fait que non, j'ai pas eu ce problème.
Mais on voit quand même dans le livre que les standards sont pas les mêmes pour les gars et pour les filles. Que ce n'est qu'au niveau de l'apparence physique.
Ouais.
Comment se comporter, par exemple, je sais pas, moi, dehors du travail, face aux joueurs, dans les endroits publics, les bars. C'est pas la même chose. Une femme, c'est pas pareil comme pour un homme.
Ben, encore aujourd'hui, c'est comme ça. Pour ce qui est de l'apparence physique, c'est sûr que moi, je le dis, bon, j'anime l'antichambre les samedis en alternance avec Pierre Houde. Je vais me faire critiquer sur la robe, la jupe, la longueur de la jupe, sur les bottes que je vais porter, si mes cheveux sont corrects, si mes bijoux sont trop discrets ou passés. Je suis convaincue que Stéphane Langdo s'est jamais fait critiquer de cette façon-là. Donc, les gens veulent, sont très exigeants envers les femmes. Mais c'est comme ça, puis je pense pas que ça va changer non plus. C'est une réalité.
Et pas juste dans le sport, là, mais...
Exact.
Il y a quelque chose qui m'a, en tout cas, étonné un peu. D'abord, votre lien avec Jacques Demers.
Oui.
Et aussi avec Michel Therrien. Mmh. Et là, on dit, voici des hommes d'une autre génération, voir des femmes arriver dans le vestiaire et tourner autour de l'organisation, c'est peut-être pas simple. Mais dans les deux cas, ils ont été... Et Pat Burns, je pourrais ajouter Pat Burns à la liste, là. Des entraîneurs qui ont été très respectueux de ce que vous êtes puis du travail que vous aviez à faire, puis prêts à vous écouter aussi, à prendre du temps avec vous.
Absolument. Ça, on a tendance à oublier ça. Je peux même mettre Marc Bergevin là-dedans, qui m'a été d'une aide précieuse à un moment donné. On était à Columbus et ma mère est opérée d'urgence, est aux soins intensifs. On ne sait pas si elle va passer la nuit. Et moi, je dois revenir le lendemain parce qu'on ne voyage pas avec l'équipe. On voyage commercial. Et je suis dans le corridor, pas loin du vestiaire, et je pleure parce que je suis très, très, très inquiète. Et Pierre Houde vient me voir, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je lui explique ça. Et Marc Benjamin est juste à côté et il entend ça. Il vient me voir puis il dit, c'est ta mère. J'ai dit, oui, je sais pas, ça va passer la nuit. Mais il dit, va à ton hôtel, va faire ton check-out. Viens, tu t'en reviens avec nous autres cette nuit. Et il dit, tu vas pouvoir être avec ta mère à minuit au chevet de ta mère. Et c'est exactement ça. Donc, je suis revenue avec le Canadien pour être au chevet de ma mère et passer la nuit avec elle. Et ces hommes-là, bien qu'ils sont très... Bon, Michel Therrien, quand Jacques Demers a fait son accident vasculaire cérébral, j'étais dans l'avion avec le Canadien parce que ça arrive des fois, mais c'est rare. J'étais très triste et très inquiète. Et Michel, qui était assis juste devant moi, me regarde puis dit, viens t'asseoir. Il dit, je vais te changer les idées. Ces gars-là, c'est des hommes de hockey. C'est un clan assez fermé, mais c'est des hommes au grand cœur aussi. Ce sont des pères de famille. Ce sont des gars qui peuvent, malgré tout, avoir des sentiments et être protecteurs, je te dirais, Paul. Et Jacques Demers, bon, c'est aussi le plus bel exemple. Jacques est devenu... bon, il a vécu le décès de mon père, il a vécu plein de choses, mon divorce et tout ça. Donc, il était toujours là pour me rassurer, pour me donner des conseils ou tout simplement me faire des gros câlins et dire « Chantal, ça va passer ». Alors, j'ai été chanceuse, effectivement.
Notre invitée ce matin, Chantal Maccabé, le titre du livre « Des avantages numériques ». On a parlé un peu tantôt des trolls. Donc, puis il y a même un auditeur qui m'a écrit, et la question, c'est, je vais prendre sa question, là, mm-hmm. Comment vous faites pour endurer ça? Parce que c'est pas des farces, là. C'est soit ça va de la déclaration d'amour
oui.
à, je vous dirais, des commentaires d'une vulgarité incroyable. On passe d'un extrême à l'autre, là.
Absolument. Et de façon, je dirais, presque quotidienne.
Vous changez une photo, vous partagez quelque chose, oui. Puis là, ça génère ce lot de commentaires.
Absolument, absolument. Ou des fois, c'est juste un commentaire sur je me souviens, cet hiver, Jonathan Drouin a fait un superbe jeu, puis je fais juste dire, Drouin, ça, c'est du talent. Les trolls, on sait bien pourquoi. On peut deviner pourquoi t'aimes Jonathan Drouin, qui a joué avec mon fils, soit dit en passant, qui est là. Je pourrais être la mère des joueurs en ce moment. Donc, ça me fait toujours très rire quand je vois des commentaires comme ceux-là.
Parce qu'on vous prête toutes sortes de liaisons.
Oui,
là, hein?
Toujours.
Dès que vous faites un commentaire, on sait bien. Elle a accès, ben, c'est parce que... Puis,
c'est clair.
Tout le temps.
C'est tout le temps. J'en ai eu encore cette semaine. Je trouvais ça très drôle parce qu'il y en a un qui écrit « Bravo pour ton livre. On va enfin connaître les détails de ton aventure croustillante avec Alain Chantelois. » Et j'étais dans la salle des nouvelles et Alain Chantelois entre dans la salle des nouvelles. Je dis, le baron, viens lire ça, tu vas rire. Mais c'est ça, c'est que je le prends en riant maintenant parce que c'est tellement ridicule, ça n'a tellement aucun sens qu'on n'a pas le choix. Et à un moment donné, ça devenait tellement intense que quand j'étais sur la passerelle, que ce soit à Brossard ou au Centre Bell, je disais aux gars, aux journalistes, les boys, venez lire celle-là, c'est trop drôle. Et là, on se bidonnait. Parce que t'as pas le choix de prendre ça comme ça.
Non, mais de vivre, non seulement avec les commentaires, mais des rumeurs, puis les allusions, puis on sait, ça part, puis à un moment donné, sur les médias sociaux, ça peut faire boule de neige.
Oui, oui, ça m'a affecté beaucoup un certain temps. Et après ça, quand tu te rends compte que t'as aucun contrôle là-dessus, tu sais, il y a rien que tu peux faire. Il y a absolument... Tu peux pas commencer à te défendre à chaque fois non plus,
non.
À dire non, c'est pas vrai, puis fait que tu bloques. Puis heureusement, je dirais que 98% des gens sont très gentils, très élogieux, très encourageants. Ce que je fais aussi des fois, qui aide beaucoup, quand il y en a un qui va trop loin, je le retweet. Et là, j'ai même pas besoin de me défendre.
Il y en a d'autres qui s'en occupent.
Exactement. Et je les remercie d'ailleurs.
Linda Hébert dans L'Anse et Compte.
Oui.
Est-ce que c'était pour vous un modèle? Comment vous regardiez ça, ce personnage-là?
Je trouvais ça très intéressant, mais je suis complètement à l'opposé au niveau caractère de Linda Hébert, qui était très...
Arriviste.
Oui, oui. Et bête à la limite, là, très fonceuse, très... Il n'y a pas personne qui va me piler sur les pieds. J'ai plus employé dans mes années la bonne psycho 101, la méthode plus douce... Toujours. Je le fais encore aujourd'hui. Donc, je fais très attention. J'ai toujours très, 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 très attention à ça parce que les athlètes vivent sur les émotions. Quand on rentre dans un vestiaire après un match de hockey, c'est 8 minutes après un match. Et comme, par exemple, cette année, il y a eu beaucoup de défaites, les gars sont à fleur de peau. Donc, si tu arrives puis tu essaies d'assommer un joueur avec une question, 8 minutes après une défaite, tu vas te faire virer de bord. Donc, j'ai toujours... Fais attention à ça quand même.
Dernière question, parce que vous donnez l'exemple dans le livre, il y a un joueur de hockey que vous nommez pas, là,
ouais.
Mais qui vous a flirté, là, qui aurait aimé ça, avoir une relation avec vous, une liaison avec vous. Puis, il était persistant quand même.
Oui, et ça a duré plusieurs années, là, parce que ça s'est pas fait en un mois, là. Donc, il a passé par des collègues de travail, il a passé par un paquet de monde. Et regarde, je voulais pas aller là. Je n'étais vraiment pas intéressée.
Il n'est pas sorti qu'un joueur d'hockey.
Non, non. La dernière chose que je voulais faire, c'était ça. Parce que il en allait de ma crédibilité. Moi, je trouve que ça va pas ensemble. Il y a des femmes qui l'ont fait. Il y a le reporter d'ESPN qui sort avec un joueur des Kings de Los Angeles. C'est correct. À Montréal, je vois pas ça. Et moi-même, pour moi, ça avait aucun sens.
Il l'a bien pris, finalement.
Il l'a bien pris.
Parce que c'est rare qu'un joueur de hockey doit se faire dire non.
J'imagine que oui, mais il avait trouvé ça quand même assez drôle.
Chantal Maccabé, merci beaucoup.
Mais merci, Paul.
Et le livre « Des avantages numériques » qui est publié aux éditions Urtubis.